et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission Les Athlètes de Dieu. Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver une légende du sport automobile, Bruno Sabi, le pilote isérois de 77 ans et le seul Français à avoir remporté les trois courses de rallye les plus prestigieuses au monde, le Tour de Corse, le rallye Monte-Carlo et le Paris-Dakar. Bruno Sabi a marqué son époque par son intelligence de course et son sang-froid. Sa longévité exceptionnelle en compétition témoigne d'une discipline et d'un professionnalisme remarquable. Aujourd'hui encore, son parcours inspire les nouvelles générations de pilotes et passionnés de rallye. Mais Bruno Sabi est aussi un athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Holly Games.
Bonjour Bruno.
Eh bien bonjour, merci d'être venu à nous.
Et merci de votre invitation.
Ben dans un contexte qui fait partie un peu de ma vie.
Ça change d'un studio de radio. Ah oui, ben là on est complètement dans votre vie. Alors évidemment il y a ceux qui vont nous suivre à l'image, mais surtout à la radio qui ne voient pas ce qui se passe, c'est qu'on est dans votre garage à Grenoble.
Oui, c'est une partie de l'histoire de ma vie, puisqu'elle a été longue. J'ai eu la chance de débuter très jeune et de passer un peu toutes les disciplines en revue. Ça a été un peu l'originalité de ma carrière, de faire du rallye, de faire du circuit, de la course de côte, enfin tout ce qui se présentait. Moi, j'essayais toujours de rebondir quand malheureusement j'étais contraint de changer de cap, parce que quand on fait une carrière sportive et surtout automobile, on dépend de beaucoup de choses et des constructeurs, des partenaires, et du jour au lendemain, il peut y avoir un changement de politique ou un changement de règlement qui fait que il faut s'adapter à d'autres disciplines. Donc c'est un peu différent des autres sports, parce que quand on fait un choix, en général, on reste dans le même sport, parce que nous, c'est toujours du sport mécanique, c'est toujours du sport automobile, mais il y a plein de disciplines qui font que on se lasse pas, en fin de compte, parce que c'est très varié, le tout, c'est de pouvoir s'adapter. Bien sûr, c'est toujours un volant, des pédales, et il faut exploiter la voiture, mais c'est dans des contextes différents. J'ai eu la chance, donc, de pouvoir faire du circuit, donc du rallye sur la neige, sur la terre, sur l'asphalte, toutes sortes de terrains. Et j'ai fini en rallye raid. Alors là, c'est carrément les grands espaces, l'aventure sur tous les continents. Donc, je me suis adapté chaque fois parce que bon, je voulais continuer ma carrière. Beaucoup de pilotes arrêtent quand on leur dit bah voilà, le règlement change, on arrête, on n'est plus compétitif, c'est plus la peine qu'on y aille. Et moi, je sautais sur une autre discipline. C'est pour ça que j'ai pris cette année ma 60e licence quand même.
Exceptionnel. Bruno Sabi sur Europe 1, les athlètes de Dieu. Et à côté de cette image, il y a cette voiture. Parce qu'il y a beaucoup de voitures, ce sont des reliques. Hein. C'est vraiment des voitures incroyables. Là, c'est la Lancia. Hein.
J'en ai gardé quelques-unes et j'ai fini ma carrière en rallye traditionnel avec Lancia. Puisque là, une première fois, j'ai changé de discipline parce que les règlements avaient changé. Donc les constructeurs avaient fait d'autres choix, par exemple Peugeot, quand j'étais chez Peugeot, avec comme patron Jean Todt, hein, qui m'a permis de rentrer dans la cour vraiment de l'international, des rallyes championnats du monde, hein. C'est grâce à cette équipe que j'ai pu fréquenter les Vatanen, Salonen, Kankunen, et tous les Michel Mouton et compagnie, les Walter Horl. Donc j'ai vécu des moments d'exception avec cette écurie, malheureusement le règlement change, donc fin 86. Et là, donc, je suis confronté à évoluer dans une autre, dans un autre contexte. Et Jean-Todt me propose de faire le Dakar. Il dit, moi, par fidélité, je garde mes pilotes. Ceux qui se sentent capables d'affronter une autre discipline me suivent et vous êtes prioritaires. Et moi, là, il est surpris, Jean-Todt, parce qu'il me dit, t'as pas l'air d'être bien chaud pour venir avec nous dans le désert. Je lui dis non, parce que, tu sais, moi, ma vie, elle a tourné autour du rallye de Monte-Carlo. Mmh. Le contexte, étant de Grenoble, ce rallye qui passait là, c'est ce qui a déclenché chez moi la passion du sport automobile. C'est le rallye de Monte-Carlo. Tout petit, j'ai vu ça, j'ai dit, ma vie sera là-dedans. Alors, j'avais frisé souvent la victoire, mais je ne l'avais toujours pas eue à mon palmarès et je la voulais absolument, cette victoire au Rallye Monte Carlo. Donc j'ai refusé le volant de Jean Todt, alors que c'était la première fois que j'avais une usine où j'étais considéré comme cadre. C'est la première fois que j'étais payé quoi pour courir, normalement. Quoi. Et ben, je refuse sans savoir où j'allais aller. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ben, je vais chercher un volant pour essayer de faire le Monte Carlo. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le risque d'aller chez Lancia. Mais Lancia avait déjà leur équipe. Ils avaient déjà suffisamment de pilotes. Mais le patron de l'époque, César Furio, me dit, ben, écoute, je peux te proposer le Monte Carlo parce que chaque année, tu nous déranges. Donc, je préfère t'avoir avec nous que contre. Donc, il m'a dit, je te fais faire Monte Carlo, mais je sais pas ce que je pourrais te faire faire après. Et je sais même pas si je pourrais te payer. Eh ben, j'ai accepté comme la proposition, et j'ai bien fait, parce que l'année suivante, j'ai gagné le Monte Carlo avec Lancia. Donc, j'ai une belle histoire avec Lancia.
Ouais.
Et ma carrière, donc, en rallye traditionnel, s'est finie avec cette voiture, puisque j'ai été champion de France des rallyes sur Terre avec cette voiture ici même, fin 91. Parce que là, une nouvelle fois, on me repropose le Dakar. Cette fois-ci, quand le règlement a changé et que la politique de Lancia a été, on arrête la compétition. Donc moi, il fallait que je trouve un volant. Et là, c'est Mitsubishi qui me propose d'aller faire le Dakar. Et j'ai dit, je veux bien aller voir, mais c'est pas sûr que je reste avec vous. Donc on fait un coup d'essai. Et comme cette année-là, le parcours, c'était le Paris-Le Cap. On traversait toute l'Afrique. J'ai dit, c'est quand même une belle aventure que je vais vivre avec vous. Donc j'accepte. Et je me suis lancé dans le Dakar.
Comme Bruno ça. Sabi, dans l'émission Athlète de Dieu sur Europe 1, avec le soutien d'Holly Games. Cette voiture Lancia est blanche, elle est superbe. On a aussi une magnifique berlinette, une Alpine incroyable, toute noire. Il y a une Ford, enfin voilà. Le garage est magnifique, mais avant de revenir sur ce garage, il y a aussi ici, chez vous, dans votre atelier, là où vous préparez vos voitures, 4 bougies. Et c'est la tradition de cette émission. Il faut en allumer une première. Ah, quelle bougie, Bruno Sabi, vous choisissez?
Mais on va commencer par la jaune.
Alors la jaune, je vous la donne et vous allez l'allumer. Il y a le petit briquet qui est là. Là, ce qui est bien, parce qu'on n'est pas en studio, on peut allumer la bougie.
Puisez votre énergie dans le Seigneur. Eh bien, écoutez, on va développer tout ça.
Oui, Bruno Sabi, il faut qu'on développe effectivement cette relation unique que vous avez à Dieu et qui vous a permis aussi de gravir des sommets. Racontez-nous la genèse, c'est votre famille, vous êtes né dans une famille nombreuse.
Eh bien oui, on est 7 frères et sœurs. Et mes parents ont eu, je dirais, le mérite de nous élever dans une ambiance vraiment familiale, unique. On faisait vraiment exemple, je me souviens, dans notre village, quand on allait à la messe le dimanche, toute la famille était alignée, là, les 7 frères et sœurs avec mes parents, on était 9, on prenait toute une allée pour tout un banc pour nous, et bon, on était toujours impeccable. Ma maman, c'est elle qui nous habillait, qui nous faisait de nos tenues, on était toujours impeccable pour aller à la messe.
Le dimanche, c'était sacré, la famille s'habille.
On n'a jamais loupé, on est tous baptisés, tous fait notre communion.
Jamais en retard à la messe.
Ah bah ça, sûrement, même en avance. En plus, mon père collaborait avec l'église. Donc, et ma maman faisait le catéchisme aussi, oui. Malgré ses nombreuses occupations de mère de famille, comme vous pouvez imaginer. Et ben, elle prenait temps aussi de faire du catéchisme. Donc, on était élevés dans la foi chrétienne. Et, ça partait d'une bonne base, quoi. Je pense que on a eu cette chance, nous, d'être éduqués en disant, voilà, il faut respecter, il y a des valeurs. Et, bien sûr, à l'époque, à l'école, quand même, on avait quand même un peu d'instruction civique. On avait quand même quelques bases, qu'il y a peut-être moins maintenant, mais avec nous, notre éducation catholique, eh bien, on avait ce plus qui disait que voilà, il fallait être sur terre pour penser aux autres, d'être charitable et d'être respectueux, et bien sûr, on passe en revue, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Ça, ben, on l'apprenait, on faisait effectivement le catéchisme régulièrement. J'avais la chance aussi d'être dans une paroisse où notre père curé était quelqu'un d'exceptionnel, que j'ai revu, ça a été celui qui m'a permis aussi de faire ma première compétition sport mécanique, puisqu'il avait organisé sur la place du village une compétition, parce qu'il nous voyait faire les fous. On n'avait pas l'âge encore de faire de la mobilette.
Vous aviez quel âge,
j'avais 13 ans, 12-13 ans.
Donc là, il vous voit, vous êtes un peu tout fou.
tout fou, on faisait des on mettait nos véhicules. Moi, j'avais surtout un Solex, bon, c'était plus modeste, mais on faisait de l'acrobatie avec ça, quoi. Ouais. On sautait, on faisait des dérapages, on était dans tous les sens. Et il avait peur pour nous, hein. C'est vrai qu'on aurait pu se faire mal. Il a dit, je vais vous organiser une vraie compétition, et c'est là qu'on verra ce que vous valez vraiment. Il y aura un chrono, il y aura des obstacles, et ce père curé, donc le père Perotto, qui a été pour moi quelqu'un d'exceptionnel, c'est lui qui m'a fait faire des choses que je n'aurais pas imaginées. Bon, déjà, cette première compétition, et après...
Alors, attendez, cette compétition, ça m'intéresse beaucoup, parce que ce prêtre, il a un côté un peu, je ne sais pas si vous connaissez ce saint, Don Bosco, qui est un saint italien et qui a beaucoup aidé les jeunes. Oui. En faisant des choses assez originales. Et lui, donc, il organise cette compétition. Mais comment ça se passe? C'est merveilleux.
Bon, d'abord, on parlait beaucoup de sport mécanique et surtout de sport automobile. Quand j'étais gamin, donc, j'avais la chance de voir passer une dizaine de rallyes dans ma région, les plus célèbres, le Raid de Monte Carlo, le Lyon Charbonnière, le Neige et Glace. Enfin, je peux passer tout en revue, le Raid de Genève, les Tulipes, tout passait dans notre région. Donc, nous, tous les mois, on était sur le bord de la route avec mes copains et à l'école, on parlait que de ça. On était vraiment en première ligne pour admirer tous ces Scandinaves à l'époque qui faisaient ces rallyes. Et en hiver, je ne vous raconte pas, donc c'était les flammes avec les pneus à clous. Et donc on était fascinés par ça, on était à genoux là-devant et on parlait que de ça, même au catéchisme, même quand on allait donc à la messe, à la messe, on parlait du rallye qu'on avait vu et de celui qu'on allait voir. Et notre curé, bien, il s'est prêté à tout ça, il s'est passionné. Et après, ben, je vous expliquerai, j'ai fait des belles rencontres avec lui. Hein, je l'ai suivi, on s'est suivi. Les coïncidences ont voulu que... Il a été après curé de Saint-Pierre de Chartreuse, donc où on passait aussi
oui,
en rallye.
Oui, parce que là, on est quand même dans un environnement massif incroyable.
Absolument.
Avec des moines, et notamment la Chartreuse.
Et la plus belle coïncidence, c'est qu'après, il a été missionnaire en Côte d'Ivoire. Et une année où on a eu l'audace de faire le Raid Côte d'Ivoire avec une R5 Turbo qui n'était pas faite pour. C'était l'audace de Renault de pour faire une image en Afrique, d'aller avec une voiture qui était faite pour faire des rallyes de vitesse et faire un rallye d'endurance comme le Raid Côte d'Ivoire. L'année d'ailleurs où Michel Mouton perd le championnat du monde des rallyes. C'est Walter Rolls, c'était derrière, qui gagne le rallye. Et Michel Mouton, malheureusement, elle abandonne. Et je l'ai vu devant moi partir à l'entonnoir, etc. Donc, il y avait une histoire aussi avec ça. Et pour en revenir donc à ce pays, eh bien, mon curé de mon village était prêtre là-bas, missionnaire, à Mans, en pleine forêt de taille. Et j'étais resté après avec mon ami Jean Ragnotti quelques jours pour aller le retrouver. C'était pourtant à 500-600 kilomètres d'Abidjan, mais on était resté pour retourner le voir, pour voir comment il vivait, comment sa mission était, etc. Donc, c'est des souvenirs uniques. Et après, bon, quand il a arrêté là-bas, il est revenu dans ma région et il était à Saint-Barthélemy-du-Gard, un autre village de notre région, au pied du Vercors, où il était curé là aussi. Et on a même des photos dans mon livre où on le voit à côté de moi dans la Peugeot 205 Turbo 16 lors des reconnaissances du Raid Monte Carlo. Vous voyez un peu l'histoire.
Il aimait l'automobile.
Tout le monde qui m'entourait aimait l'automobile. Ouais.
Parce que c'est vous qui transmettiez cette passion.
Oui, je pense que je l'ai fasciné de parler de ça. Il m'écoutait et j'étais, bon, je dirais, assez séducteur à ce niveau-là. Hein. C'est que le message y passait bien. Et ce fameux curé, donc le père Perotto, eh bien, il m'avait toujours dit, en fin de vie, je l'ai suivi jusqu'à ces derniers jours, hein, j'allais régulièrement à sa messe, où il était donc une maison de repos. Eh bien, là, il me rabâchait sans arrêt. Bruno, il faut que tu écrives ta vie, il faut que tu écrives ton histoire. Elle servira pour tous ces jeunes comme vous étiez quand vous étiez gamin et que je suis arrivé à canaliser. Et ce livre que je ne voulais pas, moi, justement, écrire par modestie. Et puis, comme je suis pas allé longtemps à l'école, donc j'avais peur aussi de faire des fautes. Alors, je l'ai écrit quand même parce qu'il m'a dit un jour, il me dit, Bruno, ce livre, tu nous le dois. Tu me le dois. Et ça a été, quand il m'a dit ça, ça a été un peu comme le jour où mon père, quand je lui ai dit que je voulais faire des rallyes, il m'a dit non, il faut que c'est pas raisonnable, etc. Et puis quand il a vu que je me faisais renvoyer de toutes les écoles, il m'a dit, cette fois, il m'a pris entre quatre yeux et il m'a dit, ok, mais te loupe pas. Et là, c'est pareil, quand mon curé, hein, le père Perotto, m'a dit, Bruno, ce livre, tu me le dois. Donc, je l'ai écrit grâce à lui ou à cause de lui. Bon, mais en tout cas, je sais qu'il est bien apprécié parce que les jeunes ont compris que mon message, il n'était pas seulement fait pour un message de pilote automobile. Et ce message, il est essayer d'avoir des valeurs, de vivre sainement, mais avec des projets, des ambitions, et faites de votre vie une vie qui vous permette de vibrer pour ce que vous allez faire. Moi, c'était le sport automobile, mais ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être pour être paysan, pour être maçon, pour être dans une autre discipline sportive, mais faire un choix de vie, s'y tenir, et le faire avec, je dirais, honnêtement, quoi. C'est pour ça que le titre de mon livre...
40 ans de bonne conduite. De Monte Carlo au Paris-Dakar aux éditions Glénat.
Et voilà. Ben oui, c'est un message que je fais passer, quoi. De bonne conduite, ça voulait dire que malgré qu'on soit dans une discipline sportive d'argent, de rivalité, parfois de méchanceté, moi j'ai voulu à tout prix arriver à faire ma carrière le plus honnêtement possible. C'est pour ça que un petit message que je fais passer, 40 ans de bonne conduite, c'est pour dire que effectivement j'ai fait une belle carrière en faisant pas trop de fautes, mais aussi je l'ai fait d'une façon saine en restant humain avec tout ce que comporte le sport automobile.
Bruno Sabi, on va utiliser un terme propre aux voitures. Est-ce que la foi est un moteur pour vous?
Alors, je dirais que c'est un peu particulier comme approche pour moi par rapport à la foi. Bon, bien sûr, comme je viens de vous le dire, j'ai fait une carrière, je pense, honnête à tous les niveaux.
Exceptionnel, Bruno.
Non, mais c'est vrai que j'étais tellement passionné, que j'étais tellement déterminé, et je pense que là, j'ai été aidé, quoi. Ma foi m'a aidé à persévérer dans un milieu qui était impossible. Quand on vous dit le sport automobile, ça coûte ça, ça fait. Et moi, j'étais.
Il y a plein d'obstacles.
Quand je suis parti donc travailler dans les garages, je gagnais pas beaucoup d'argent. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai fait mon premier rallye avec des moyens très modestes, et je suis arrivé quand même à faire des rallyes souvent. Et on se demande comment, mais parce que voilà, je le voulais vraiment, et je trouvais toujours des solutions, et j'ai été aussi aidé, bien sûr, mais mes parents n'avaient pas les moyens, mais c'était la débrouille, qu'on préparait les voitures avec les copains, on achetait des pièces à la casse, et bon, comme j'étais bon bricoleur, bon, j'arrivais aussi à être autonome, et puis bah surtout c'était la possibilité, moi, de travailler plus que les autres. Je me suis mis à mon compte, j'avais pas 20 ans. Et là, je travaillais jour et nuit pour pouvoir payer mes rallyes. Et j'ai eu la chance d'avoir une compagne qui est devenue ma femme, qui a tout de suite été aussi séduite par mon rythme de vie, par ma passion et par mes ambitions, par mes projets. Et là, j'ai eu la chance, donc, au début de ma carrière, de pas être contrarié par mes parents. Mes frères et sœurs m'ont aidé, mon entourage m'ont aidé. Et puis après, quand je me suis marié avec mon épouse, donc Renée, eh bien, elle a joué le jeu. Elle m'a toujours aussi soutenu, même quand il y avait des situations difficiles. Parce que quand on a une famille, il y a des moments où il y a des étapes quand même, il faut penser à tout le monde. Donc elle a toujours accepté cette vie-là.
Bruno, ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez dit, vous venez d'une famille nombreuse, et à l'âge de 13 ans, ça devient compliqué pour vous, parce qu'à l'école, ça se passe pas très bien. Donc il y a une bascule aussi, et dans cette école, dans les établissements que vous avez fréquentés, il y a eu toujours une relation à la foi.
Aussi. Ah bah toujours, ça par contre j'ai toujours conservé, j'étais pas rebelle au point de tout abandonner, hein, j'étais rebelle parce que j'avais moi mon chemin tout tracé qui était le sport automobile, c'était suicidaire pour certains, mais moi pour moi j'étais sûr de mon coup, parce que peut-être que justement j'ai été soutenu. Je vais vous raconter un peu une anecdote curieuse, parce que quand mon père m'a dit il y a plus personne qui veut te garder dans les écoles, malheureusement c'est pas de gaieté de cœur, on va te mettre dans un pensionnat. Un pensionnat qui était un peu, je dirais, tendance quand même, préparation du petit séminaire, quoi. Hein. Beaucoup rentraient dans cette école qui était Montgontier, à Gilenay, près de la côte Saint-André, donc dans l'Isère. Et là, quand on était là, on était là pendant 3 mois sans rentrer chez soi, quoi. Hein. On rentrait que pour les Noël, Pâques, et puis...
Donc c'est rude, et on prépare les futurs prêtres.
On prépare les futurs prêtres.
Donc vous aviez peut-être la vocation?
Ben moi, j'étais en tout cas pratiquant et largement aussi, avec la foi de tous ceux qui étaient là. Hein, la plupart effectivement étaient prêts pour devenir prêtres. Moi donc, je savais que je ne deviendrais pas.
Ah. Mais pourquoi?
Parce que pour moi, j'étais rallyman dans ma tête déjà.
Déjà.
Ah oui, bah, j'avais fait le mur parce que j'ai entendu passer le Toronto qui passait à 2-3 kilomètres de, en pleine nuit.
En pensionnat.
Voir, en pensionnat. Et puis bon, j'ai eu des tas d'aventures dans le pensionnat qui ont fait qu'ils n'ont pas pu me garder.
Oui, parce que vous expliquez, j'ai lu ça, que vous avez pris des boîtes de conserve la nuit, toutes les nuits, pour éventuellement vous échapper et voilà. Aller en Camargue. C'est bien
j'avais
ça
fait, j'avais fait mon sac à dos, prêt à partir. Je voulais fuir. Je voulais faire le mur. Je voulais plus rester dans cette école parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Ma vie, elle était déjà dans le sport automobile. Il fallait que je me rapproche de tout ça. Je voulais aller dans les garages, être proche des autos, et tout en gardant quand même la foi. Et la preuve d'ailleurs, c'est que je l'avais peut-être même plus que les autres, parce que je me souviens, on avait bien sûr la messe régulièrement, la semaine, mais on pouvait tous les matins choisir d'aller faire l'enfant de cœur avec un des prêtres, qui, le bonheur matin, 5h30, 6h, avant qu'on se lève pour aller en cours, eh bien, il fallait... on était dans les dortoirs, mettre ses pantoufles au pied du lit pour signaler qu'on voulait être réveillé à 5h du matin pour aller donc servir la messe. Et ben, y avait pratiquement jamais personne. Et moi, chaque fois que je me couchais, je me disais donc demain matin, je me lèverai pas. Et en pleine nuit, je me levais pour mettre mes pantoufles. Et j'étais pratiquement tous les matins à servir la messe avec le prêtre. Et j'aimais cette relation qui était unique, qui était pour moi un privilège de pouvoir être avec un prêtre comme ça au petit matin. C'est pour ça que je suis toujours en lève-tôt et que tout ce que je fais, je démarre très tôt et que je ne dors pas beaucoup parce que j'ai été habitué à ça. Et je surprenais, c'est ça qui était le paradoxe pour moi, c'est que j'étais un rebelle. Mais j'étais celui qui était le plus exemplaire de tous ceux qui étaient dans ce pensionnat. On n'était pas une centaine. Pour en revenir au chiffre 100, cette école existait depuis 100 ans. Et quand ils m'avaient accepté de me prendre, parce que mon palmarès n'était pas terrible, du fait que je m'étais fait déjà renvoyer partout, et ils avaient dit à mon père, écoutez, nous, la boîte, elle a 100 ans. On n'a jamais viré personne. Votre fils, on va le mater. S'il a effectivement l'intention de vivre en marche chez nous, on fera ce qu'il faut. Et ils ont fini quand même par me renvoyer parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ma vie, elle n'était pas là. Quoi.
Bruno Sabi, ça fait quoi de porter une aube au petit matin à côté d'un prêtre?
Ben, je vous dis, moi, ça me fait, j'étais pris et ça me prenait au ventre. J'adorais cette situation. Je vous dis, je me sentais quand même différent des autres. J'avais en moi cette foi qui a fait que j'ai toujours eu dans ma carrière, dont je ne me suis pas servi, j'ai jamais demandé à Dieu de m'aider pour les compétitions.
Jamais.
Je l'ai toujours remercié de m'avoir permis de faire ce que je faisais, d'avoir eu, bien sûr, un palmarès, des victoires, mais quand ça allait mal, jamais je demandais à Dieu de m'aider pour une victoire. Je me disais que, par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde, la Terre est malheureusement maintenant... un chantier qui est impensable, quoi. Il y a tellement de malheurs, je crois qu'on doit être même pas un tiers sur la Terre à vivre à peu près normalement. Je connais pas les chiffres exacts, mais on s'en rend bien compte. Moi qui ai eu la chance avec le Rallye Raid,
la guerre, la famine,
tous les continents, j'ai vu la pauvreté, j'ai vu la misère, et aller demander à Dieu de m'aider à gagner un rallye, alors qu'il y a autant de misère, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, moi, je priais en permanence pour ma famille, pour qu'on arrive à trouver des solutions pour toute la misère dans le monde. Mais pour moi, personnellement, je remercie Dieu de me permettre de faire cette vie que je voulais mener, de m'avoir permis de gagner, mais jamais je l'ai supplié pour avoir une victoire.
On va allumer la deuxième bougie dans cette émission, Bruno Sabi.
Et ben la verte. Les derniers seront les premiers.
Alors là, je vous vois.
je connais l'histoire. Et puis le vert, ça rappelle, ce sont les couleurs de l'association Espoir Isère contre le cancer que je parraine. Donc on aura l'occasion d'en parler
oui,
aussi.
Oui, il faut qu'on parle de cette association tout à l'heure.
Les derniers seront les premiers.
Ça, alors oui, mais vous n'avez pas été. Alors c'est ce que je dis beaucoup à nos invités, parce que ce sont des invités qui sont des immenses champions. Hein, quand on est avec Olivier Giroud, oui. Jeannie Longo, qu'on est allé voir aussi à Grenoble, non loin d'ici. Bon, ils n'ont pas été derniers très souvent. Vous non plus.
Ben ma foi, une fois de plus. Quand on est déterminé à faire une carrière, on pense qu'il y a une chose, hein, c'est de gagner, quoi. Moi, pour moi, second, c'est une contre-performance. Cette année, par exemple, j'ai refait le Dakar, mais c'était juste un défi aussi personnel de refaire le Dakar 20 ans après ma dernière participation, 33 ans après l'avoir remporté. Quand je suis parti sur le Dakar, hein, c'était ma 60e licence que je prenais pour disputer cette épreuve, eh bien c'est la première fois que je partais dans un rallye sans l'intention de le gagner. C'est mon seul défi était de d'y participer, de le faire. Donc j'étais dans un contexte différent. Mais pour moi, à chaque fois, même en ce moment, puisque je fais des rallyes historiques avec des voitures qui ont marqué ma carrière, eh bien, je pars avec l'intention de gagner encore. C'était ça, moi. Avant tout, ce qui me passionnait, c'était la compétition plus que tout le reste. Donc je me suis surpris. C'est pas bien d'ailleurs pour un pratiquant comme moi d'être méchant, mais quand j'étais dans des épreuves où on est confronté côte à côte, comme le circuit ou le rallycross, là j'avais rien à envier à personne au niveau de la méchanceté. Hein. Ça c'est sûr que il fallait que je sois devant.
Donc, vous en voulez pas après coup?
Bon, c'est sûr que c'était chaud avec nos camarades, hein, on s'est toujours réconciliés parce que je crois qu'il faut pardonner.
Ça, c'est vrai. C'est
et
vrai.
Eux aussi sont arrivés à pardonner, même s'ils l'étaient moins que moi.
C'est l'un des fondements de la foi chrétienne. Ça nous permet d'avancer. Je reviens là sur votre livre, qui est une autobiographie magnifique, 40 ans de bonne conduite. Vous avez mis une photo de vous. C'est votre communion solennelle. Vous vous en souvenez?
Bien sûr. Moi, je m'en souviens bien. Hein.
Alors?
Ah oui, bah, ça a été un grand moment. Comme je vous le dis, tout ce qui tournait autour de cette éducation religieuse que j'avais, je le faisais avec la foi. Mais toujours avec, dans ma tête, l'intention de faire autre chose de ma vie que de rester dans ce milieu, tout en gardant quand même le contact. Hein. Là, ma vie actuellement, elle est toujours soutenue aussi, puisque je fais beaucoup d'événements caritatifs avec mon association, que je fais beaucoup d'épreuves encore de compétition automobile, en n'ayant plus le même rôle, en faisant surtout de l'historique, mais surtout je fais des événements pour Espoir Israël contre le cancer, où on est présent sur les rallyes, hein, pour récupérer des fonds. Le sport automobile est très généreux. Je monte des équipes sur certains rallyes prestigieux, comme le Rallye Monte Carlo autour de Corse, où il y a des classements par équipe. Mmh. Et là, je monte avec entre 10 et 20 voitures chaque fois, des voitures qui portent les couleurs de Espoir contre le cancer. Génial. On gagne les classements par équipe, on a les médias qui parlent de nous. Les pilotes, je leur amène un certain conseil aussi, un certain service. Et ben, ils sont généreux avec l'association. Et je fais pareil dans le golf. Dans le milieu du golf, j'organise des compétitions aussi. Et là aussi, je suis compétiteur, même si je ne suis pas au niveau de certains golfeurs, parce que c'est une discipline aussi peut-être méconnue, mais qui est largement aussi difficile que toutes les autres.
La générosité de Bruno Sabi dans l'émission Athlète de Dieu avec Oli Games sur Europe 1. Vous êtes généreux et vous êtes débrouillard. Est-ce que vous le devez à votre période de scout ?
Ben oui, j'ai eu aussi cette opportunité, parce que quand j'étais dans ce pensionnat, eh bien on était quelques-uns à être aussi... Ce qui m'attirait dans le scoutisme, c'est un peu comme dans le rallye aussi, c'est la nature, quoi. C'est la découverte. C'est pour ça que je me suis bien adapté aussi au rallye raid, parce que j'ai eu la chance de faire des rallye raids comme le Paris-Le Cap ou le Paris-Dakar, et le Paris-Moscou-Pékin, qui était le plus grand rallye de tous les temps, qui a duré 4 semaines.
Incroyable.
C'est un rallye donc qui m'a fasciné, parce qu'on a découvert pendant 4 semaines traverser toute la Russie et toute la Chine. Voilà, donc et le scoutisme, c'était bon à un autre niveau. C'était ça, quoi. Mais c'était ça avec des contraintes quand même, parce que les week-ends de libre qu'on pouvait avoir entre certaines fêtes, eh bien normalement on était là pour pouvoir aller dans nos familles. Eh bien moi je restais au pensionnat pour aller faire des sorties avec toute mon équipe de scouts. Je me souviens toujours, hein, c'était la catégorie, enfin la catégorie, c'était les aigles. On était nous, voilà, notre section c'était les aigles, et aigles toujours prêts, quoi. Ça correspondait aussi à ma volonté de faire quelque chose de ma vie. Et le scoutisme m'a apporté beaucoup, parce qu'on partait en hiver avec sa toile de tente sur le dos, on couchait dans la neige, il fallait se débrouiller pour manger, et c'était déjà une étape de ma vie qui signalait que j'étais fait pour l'aventure.
Bruno Sabi, quand vous quittez ce pensionnat, quand vous ratez encore une fois l'école, vous retrouvez carrossier, c'est ça?
Alors oui, quand je suis donc...
Et comment vos parents et votre papa notamment, on va réagir à ça, parce que vous êtes un peu entre guillemets le vilain petit canard de la famille, si je
voilà.
Puis dire.
Voilà, donc bon, effectivement, quand j'ai été renvoyé de cette école, hein, quand le père supérieur et directeur de l'école prend sa 403 break pour charger mon matelas, parce qu'à l'époque on venait avec son matelas, ses couvertures et tout, en pension. Il met tout ça sur le toit de la voiture et il me ramène chez mes parents. Là, mon père qui était voyageur de commerce, donc il n'était pas dans la journée. Et quand il est rentré le soir, ma maman déjà se faisait du souci. Il dit comment il va prendre ça, parce que mon père était sévère. Hein. Mais il était généreux avec nous parce qu'il a toujours accepté les passions de chacun. Avec très peu de moyens, on arrivait à faire du ski, on partait en vacances l'été quand même. Voilà, on faisait des choses quand même qui étaient un privilège à l'époque. Je me demande comment il faisait d'ailleurs avec très peu de moyens de nous faire comme ça plaisir à tout ce qu'on voulait faire. Donc, pour ça qu'on a été bien élevé à ce niveau-là. On avait des contraintes parce qu'il était sévère, mais on avait des récompenses. Et ça, je l'ai toujours bien compris. Et j'ai su que c'était une bonne base dans la vie. Et quand le soir, il est rentré et qu'il m'a vu là dans la cuisine, il a été surpris, quoi, bien sûr. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au pensionnat. Ben, je lui ai expliqué. Il me courait autour de la table, là, puis il m'a attrapé. Et là, il m'a dit, bah voilà, donc on a tout fait, on a tout essayé, c'était pas de gaieté de cœur qu'on t'a mis dans un pensionnat, on espérait qu'ils arrivent quand même à te raisonner, donc t'as fait un choix de vie différent. Eh bien, il m'a pris en face, entre quatre yeux, il m'a dit, bah écoute, j'ai compris que tu voulais faire autre chose de ta vie, t'es destiné à aller dans l'automobile, et peut-être le sport automobile, mais ne te loupe pas. Donc là, j'ai su qu'il fallait après que je me prenne en main, et là, de ce jour-là, je suis parti d'un travail dans les garages, j'ai un peu tout fait, de la mécanique, servir à la pompe à essence, etc. J'ai fait d'autres petits métiers aussi, hein. J'avais tout tenté, hein. J'ai été laborantin chez un fabricant de rechapage de pneus, j'ai été même tailleur dans un couturier grenoblois célèbre.
Enfin, vous terminez pilote, hein, Bruno.
Voilà. Et donc, je me suis dit quand même, il vaut mieux que j'aille travailler quand même dans l'automobile pour devenir pilote. Et puis que je me suis rendu compte que la catégorie de l'automobile la plus intéressante, qui me concernait et qui me permettait de dire que si je faisais du sport automobile avec pas beaucoup de moyens, la carrosserie c'était pas mal, parce que si je sors de la route, je pourrais réparer mes voitures, et surtout je me disais, ben j'achèterais des voitures pas chères à la casse pour les retaper, pour pouvoir courir avec, ce que j'ai fait. Et puis bon, il se trouve que la carrosserie, je sais pas maintenant, parce que je veux pas non plus parler de l'époque actuelle de l'automobile qui a bien évolué, mais à l'époque la carrosserie c'était qu'elle est plus rentable. Alors bien sûr, j'ai travaillé comme ouvrier jusqu'à ce que j'ai l'âge, et à même pas 20 ans j'ai monté ma propre carrosserie, justement pour travailler jour et nuit pour pouvoir payer mes premiers rallyes. C'est comme ça que j'ai pu arriver à faire mes premières épreuves avec beaucoup de sacrifices et avec tout l'entourage qui subissait aussi mes sacrifices, parce que j'embarquais beaucoup de monde autour de moi avec ça.
Bruno Sabi, vous avez conduit de nombreux bolides, il y en a quelques-uns autour de nous. Si Jésus avait été pilote, quel modèle aurait-il conduit ?
Ah, oh la vache, parce que alors là, un truc sûrement très modeste, mais la première voiture que j'ai eue, donc, était l'Ami 6 de mon père. Il y a que les très vieux qui se souviennent de ce qu'est une Ami 6. Il y a des photos dans mon livre, donc, ils pourront voir. Donc, c'était la voiture de base.
C'est pas la plus belle, hein.
C'était la,
non?
Elle était originale, puisqu'elle avait la vitre à l'envers, derrière pour pas que la neige s'accumule. C'était, on n'avait pas besoin de mettre des essuie-glaces à l'arrière sur une Ami 6. Et, c'était la
voiture. Immatriculée 3649 SE 38.
Voilà, d'accord, c'était, hein, la voiture de mon papa pour aller faire son travail de représentant. Donc, de voyageur.
Donc, vous lui piquez la voiture.
Eh bien, quand j'arrive à 18 ans, pile, bon, moi j'avais une modeste Vespa 400 pour aller travailler. Et mon père avait une voiture un peu plus performante qui était la Mi 6. Il devait faire 5 chevaux de plus. Et bon, pour pas prendre le risque aussi d'avoir une voiture trop performante au début pour voir ce que je pouvais faire, mon père avait accepté que je roule avec sa voiture. Et il est parti avec moi comme coéquipier parce qu'il voulait vraiment voir si j'étais suffisamment sérieux pour affronter une discipline qui commençait à devenir dangereuse, quoi. C'est sûr que quand on fait des chronos, même avec une voiture modeste, il faut l'exploiter et ça peut des fois mal finir. Et donc là, il a vu que j'étais sérieux. Il m'a permis de rouler encore quelques épreuves avec lui. Puis après, il m'a dit, bah, je sens que c'est vraiment, t'es raisonnable, t'es capable de faire sans moi. Et donc, je suis parti avec des copains ou des coéquipiers qui étaient destinés à faire ça.
Les voitures, elles ont été bénies ou jamais?
Alors, avec, bon, bien sûr, moi, j'ai couru souvent avec des voitures qui étaient des voitures officielles. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu des voitures bénies. En tout cas, moi,
vous étiez béni en tout cas.
Moi, j'étais béni et puis je faisais souvent ma prière en voiture, ça c'est sûr.
Ah oui, quelle prière, Bruno ?
Ah ben moi, j'ai fait des Je vous salue Marie et des Notre Père en permanence.
En permanence ?
Oui, en permanence.
C'est-à-dire que quand vous êtes dans le volant, vous êtes dans les dunes du Sahara, vous faites le Dakar, vous allez gagner le Dakar.
Il m'arrive de faire des prières.
Vous avez suffisamment de temps dans les virages du Monte Carlo.
Et je me suis surpris à faire un signe de croix devant certains calvaires ou certaines églises lors de rallye.
À combien? À 150 km/h, vous êtes capable?
Oui, je suis capable, absolument.
De tenir le volant d'une seule main et de faire un signe de croix.
Et puis je le dis dans mon livre, mais bon, il y a beaucoup qui le savent. Et j'ai eu aussi, quand j'étais aussi gamin et que j'étais rebelle, en dehors du père Perotto, Laurent Perotto, qui m'a bien guidé, j'avais une dame qui s'appelle Hermance, qui était dans un couvent, dans mon village de Gières, parce que je suis natif de Gières, un petit village à côté de Grenoble, qui est pas loin justement de chez Olivier Giroud aussi. Et il y avait une dame qui aurait pu être bonne sœur, mais qui ne l'était pas, mais qui était avec elle, et qui faisait le catéchisme, et qui m'avait pris, moi aussi, à part, parce qu'elle savait que j'étais différent. Et elle m'a toujours dit, quand t'es dans une situation difficile, quand tu sens que, tu dérapes, quoi, hein, quand tu deviens, comme tu l'es, des fois, rebelle, même agressif, parce que, voilà, on a compris que t'avais une vie en vue différente des autres, eh bien, tu fais un petit signe de croix sur ton cœur pour justement te rappeler, pour te poser, pour t'inspirer et pour prier. Donc j'ai toujours eu ce réflexe et je le fais régulièrement, même en rallye, même en spécial, un petit signe de croix sur mon cœur en pensant à Hermance, cette brave dame que je vais de temps en temps retrouver sur sa tombe parce que tout le monde l'a oubliée.
On a encore deux bougies à allumer, on va en allumer une ici dans votre garage pour cette émission Athlète de Dieu, Bruno Sabi.
Eh bien, on va prendre la rouge cette fois-ci.
Et on rappelle aux auditeurs, vous êtes un merveilleux pilote automobile, seul français à avoir remporté 3 rallyes très prestigieux, Tour de Corse, Rallye Monte Carlo et Paris-Dakar. Et cette phrase qui est sur cette bougie.
Par ta victoire, grandit son éclat.
Ça résume pas mal de choses, parce que ces victoires vous ont donné une vie totalement différente et une joie. Moi, je le vois dans votre premier regard, c'est très important, le premier contact qu'on a quand vous êtes venu me chercher à la gare. Vous avez ce sourire très profond, cette générosité, cette bienveillance que vous auriez pu laisser dans la voiture tellement il y a eu parfois des coups bas, ça a été compliqué. Vous le racontez vous-même, vous aussi, vous n'étiez pas toujours très tendre avec vos concurrents.
Non, et puis bon, la victoire, c'est la finalité, quoi. Ça correspond exactement à mon choix de vie, quoi. Cette vie de compétiteur, mais c'est énormément de travail derrière, quoi. On sait qu'il faut avoir du talent inévitablement, et après la différence, on le fait comme dans tous les domaines, que ce soit sportif ou autre. Il faut travailler pour être encore meilleur que les autres. En tout cas, moi, je suis, comment dirais-je, un privilégié d'avoir pu être dans un milieu difficile, en gardant quand même des principes de base, quoi. C'est grâce à mon éducation religieuse, grâce à mes parents, grâce à cette foi et à continuer à pratiquer cette religion qui me permet justement, et je suis béni des dieux pour arriver à faire de ma vie ce que je souhaitais, quoi. Il y a pas, je trouve que je n'en vis pas une autre vie que celle que j'ai choisie.
Bruno Sabi, quel est le meilleur souvenir, peut-être le souvenir le plus marquant que vous ayez eu au volant de votre voiture?
C'est inévitablement le rallye de Monte Carlo, puisque c'est celui qui me fascinait quand j'étais gamin. C'est celui que je voulais vraiment remporter. C'est celui qui m'a fait prendre tous les risques de refuser un volant avec Jean Todt pour aller dans une écurie sans savoir si j'aurais une suite. Mais je savais que ce serait la voiture qui me permettrait de gagner le rallye de Monte Carlo et ce pari.
Quelle voiture?
Avec la Lancia. Donc
la fameuse Lancia, qui est là, à droite.
C'est pas celle-là même. Elle était pas à ces couleurs-là, mais elle était aux couleurs officielles de l'écurie à Barthes, donc
mais elle ressemblait.
Lancia, mais c'est exactement le même modèle. Et c'est vrai que ce pari audacieux que de tout miser sur le Monte Carlo, j'aurais été malheureux si je ne l'avais pas remporté. C'est pour ça que ça reste mon meilleur souvenir, même si j'ai gagné des rallyes largement aussi, je dirais, prestigieux que le Paris-Dakar. Mais bon, déjà, quand j'étais gamin, le Paris-Dakar n'existait pas. C'est
Thierry Sabine. Hein.
Thierry Sabine.
Malheureusement, voilà, le regretté Thierry Sabine qui l'a créé. Et vous avez d'ailleurs piloté une de ses voitures, hein, pour la petite histoire.
Oui, on a eu aussi l'occasion de pouvoir être confronté. Donc, quand je courais même avec la Ford Capri, j'ai failli devenir pilote officiel. C'est lui qui m'a pris le volant parce que bon, il fallait amener des sponsors que je n'avais pas. Et après, donc, on s'est retrouvé quand il a arrêté de faire des rallyes. Il avait loué une voiture pour participer à un rallye qui me permettait de pouvoir marquer encore des points au championnat de France parce que je changeais de volant sans arrêt suivant les sponsors que j'avais. Et lui, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, bah, la voiture, non, je la loue pas parce que je suis sur un autre projet, et c'est là qu'on a su qu'il préparait le Paris-Dakar. Et donc j'ai loué sa voiture, qui était une Porsche, et le seul rallye que j'ai fait en Porsche, que j'avais remporté.
Donc Bruno Sabi, ça c'est le meilleur souvenir, le rallye Monte-Carlo, avec des larmes peut-être de joie, j'imagine, à l'arrivée.
Oh oui. Oui.
Des larmes de gratitude pour le Seigneur.
Ben, je me souviens parce que, ah ben, bien sûr, mais chaque fois que j'ai eu la chance, même quand je gagnais pas, j'ai toujours remercié le Seigneur de m'avoir permis d'avoir cette vie, quoi. C'est tellement unique, c'est tellement exceptionnel de pouvoir vivre de sa passion que je l'ai toujours remercié. Mais là, je me souviens toujours de tous mes amis journalistes parce que j'ai toujours eu de bons rapports avec la presse, ça s'est toujours bien passé, hein. Donc, quand j'étais à l'arrivée de la dernière spéciale de ce rallye de Monte Carlo, il m'avait écrit un gros ouf sur un papier, ils étaient tous là, ils pleuraient avec moi parce qu'ils savaient que ma vie, elle était sur ce rallye-là, connaissant mon histoire et mon passé.
Je vais vous donner une petite carte, Bruno Sabi, avec une question.
Dans quel lieu vous sentez-vous particulièrement en paix? Oui, c'est pas une question piège, parce que...
Il n'y a pas de question piège ici.
Bon, c'est sûr que moi, dans ma voiture, c'est là que je me sens le mieux. Et j'ai eu la chance de découvrir aussi, de dormir sous la tente. Lors de tous mes Dakar, on dormait dans les bivouacs, sous la tente, et je me retrouvais dans un espace qui était similaire, et j'avais vraiment l'impression d'être dans le même espace que dans ma voiture, et là, c'était mon refuge, quoi. Et là, je priais sous ma tente, hein. Mais par contre, chaque fois que j'en ai l'occasion, hein, je ne loupe pas tous les rendez-vous importants de tout l'enseignement qu'on a eu religieux, hein, bien sûr, hein, les traditionnels, hein, Pâques, toute la préparation, et bien sûr les donc, fêtes de Noël aussi.
Le carême, ça se fait aussi.
Absolument, chez... absolument.
Il y a une sorte d'ascèse qui
se fait. Ah oui, complètement. On mange du poisson le vendredi saint et toute la préparation de Pâques se fait en faisant beaucoup de sacrifices culinaires et
Pâques,
c'est pas une vie de moine que je mène, mais je fais très attention et j'ai la chance avec ma compagne Véronique qui est comme moi aussi et ça nous permet, c'est ce que j'ai vécu aussi avec mes parents, avec Renée, mon épouse, et que je continue à vivre en pratiquant ce que on nous a enseigné avec des sacrifices et ça mérite largement ça pour la chance de la vie qu'on a.
Est-ce que vous ressentez de la joie à la messe et notamment lors des célébrations de Pâques? Est-ce qu'il peut y avoir une joie qui se rapproche d'une victoire?
Complètement. Surtout quand, bon, on assiste, hein, aux offices. Là, justement, on se sent, et puis toute cette préparation, hein, et puis, c'est, comment dirais-je, des moments uniques que l'on échange avec sa famille, parce que ma famille est restée aussi, hein, pratiquante, et donc ce mode de vie nous convient et nous rassemble, et c'est les moments où je me sens le mieux et que je me sens vibrer pour ce choix de vie que j'ai fait, que ce soit pour la course automobile, et toujours en pensant à Dieu qui nous a permis de vivre exceptionnellement. Parce que la vie, en fin de compte, moi, je ne cherche pas complètement le bonheur. Moi, ce que je veux, c'est avoir des satisfactions, parce que malheureusement, on a des mauvaises surprises. On passe beaucoup de mauvais moments sur Terre. Donc, il y a les souffrances de perdre les siens. Hein, il y a des moments très difficiles, des situations effectivement qu'on ne peut pas imaginer quand tout va bien. Malheureusement, on est tous confrontés à ça. Personne peut se vanter. Hein, on est tous confrontés à la maladie, à des moments de difficultés financières, de toutes sortes de choses qui font que, eh bien, chercher à être heureux, c'est bien, mais être heureux par des satisfactions, mais pas le bonheur complet, quoi. Le bonheur, on peut pas l'avoir en permanence, mais sûrement cette chance qu'on a, nous, de pratiquer.
Justement, cette foi, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Est-ce qu'elle vous apporte plus de paix, plus de joie?
Eh ben, moi, elle me permet, en tout cas, de penser à ceux qui ne sont pas croyants. Et ils me font de la peine, quoi, presque. Je me dis, mais comment on peut ne pas être croyant, quoi? Comment on peut faire le constat? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est pour ça que je conseille certaines lectures. Là, j'ai lu récemment, et je le relis même par moments, Dieu, la science, l'épreuve. C'est pas un livre qui nous dit absolument croyez, allez vous faire baptiser, devenez chrétien, catholique. C'est pour faire le point, quoi. Et je trouve que ce livre nous permet de nous éclairer sur l'existence, sur l'avenir, le ciel, hein, le combat que l'on doit mener pour mériter le ciel.
Moi, je pense que le nom de ce livre,
c'est Dieu, la science, l'épreuve. C'est un livre magnifique, et moi je me replonge régulièrement aussi, hein. En ce moment je suis en train de relire Jésus-Christ, et bien ça surprend, parce que bon, Jésus, on en a parlé, on le connaît, etc. Mais là, en ce moment, il y a Jean-Christian, petit-fils, qui vient de refaire cette vie du Christ. Mais c'est unique, se replonger là-dedans, se retrouver dans tout ce qui est des citations que l'on a bien connues à travers le catéchisme, à travers... je voudrais être encore plus proche de tout ça, je voudrais m'impliquer. Hein, j'ai beaucoup d'amis qui s'impliquent, hein, dans ces situations qui deviennent de plus en plus difficiles. On sait que les prêtres en bavent, qu'ils n'ont pas. Nous, bien sûr, on a le denier du culte, mais on sait que ça leur suffit pas. Mais donc... tout ce monde qui s'investit pour les autres à travers notre religion me fascine, et j'aimerais avoir du temps pour ça, mais je fais tellement d'autres choses que je me dis que...
Mais vous témoignez par votre pilotage, et ça c'est très important, vous témoignez par ce que vous êtes et ce que vous faites. D'ailleurs, Jésus, il a fait plein de choses, hein, en l'occurrence.
Oui.
Il n'est pas resté toute sa vie chez lui à Nazareth.
C'est ce qui est étonnant, justement, en très peu de temps, hein. Parce que mourir à 33 ans et avoir fait tout ce qu'il a fait en laissant tout ce qu'il a laissé, c'est tellement unique, c'est fascinant. Même si on n'est pas pratiquant, si on n'est pas croyant, on est obligé de reconnaître quand même l'existence de Jésus-Christ, et ce qu'il a fait est tellement... Enfin bon, c'est ce qu'il y a de plus unique au monde pour moi, il n'y a rien d'équivalent. Alors, quel passage de la Bible vous accompagne dans les moments importants de votre vie? Eh bien, bien sûr, je suis pratiquant, et j'ai cette chance de pouvoir, je vais à la messe, communier. D'ailleurs, un truc qui me manque aussi, quand tout à l'heure on se demandait pourquoi, dans quelle situation vous vous sentez bien, où je me sentais bien, je me souviens, c'était quand on sortait de se confesser. Ça se pratiquement plus maintenant. On peut encore se confesser, mais on le fait rarement ou plus. Alors qu'à l'époque, je me souviens, quand j'étais gamin, effectivement, j'étais rebelle, donc je répétais en permanence que j'étais pas gentil avec tous ceux qui m'entouraient et qui méritaient pas que je sois méchant avec eux. Mais je courais quand je sortais du confessionnal. Je courais de joie, je sautais, j'étais content, j'étais libéré de tous mes péchés, quoi. Et ça me manque. Mais bon, j'ai la chance maintenant de pouvoir continuer à pratiquer donc cette religion avec la foi. Et je communie. Et moi, bien sûr, quand je communie, eh bien, c'est simple, c'est Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai béni. Voilà, pour moi, c'est l'essentiel, quoi, parce que je ne suis pas un saint, j'essaye d'être le plus sincère possible, d'être le plus généreux possible, d'être le plus charitable possible, mais j'ai sûrement encore des fautes et j'espère que Dieu me pardonnera.
Vous dites « j'espère », mais la confession, c'est encore quelque chose que vous avez l'habitude de faire, d'aller vous confesser, ou c'est plus compliqué avec votre métier?
Je trouve que maintenant, on n'a plus tellement la possibilité, hein, de se confesser. Ça ne me gênerait pas, mais je le fais en tout cas moi-même, quoi. Hein. Je prie, ouais, et je demande pardon pour toutes les fautes que je continue à faire, sans aller dans un confessionnal comme je le faisais dans le passé, surtout quand j'étais gamin.
va allumer la dernière bougie dans cette émission. Il en reste une. C'est une bougie bleue. Bleu comme les couleurs de la France que vous avez défendu aussi tout
Absolument.
Au long de votre vie.
Voilà, je suis content de, je me suis réservé la bleue pour la fin parce que bon, bleu c'est le ciel, c'est notre espérance d'aller au ciel. C'est les couleurs de la France que j'ai défendues quand effectivement on a la chance d'avoir la Marseillaise. Hein, pour les événements que j'ai pu représenter, représenter notre pays.
J'en ai des frissons, rien.
D'exception, oui.
J'en ai des frissons.
Et j'en ai vécu encore il n'y a pas très longtemps, justement. Et chaque fois, ça brasse, quoi. C'est vrai qu'on est fiers d'être.
Ça va être fou d'être sur la première marche du podium, d'avoir cette Marseillaise, des gens qui vous regardent.
Absolument, oui. C'est des moments qui perturbent même, parce que on veut résister, mais comme on le voit, tous les sportifs, on s'attend pas à voir certains sportifs qui sont des vrais guerriers pleurer quand on entend la Marseillaise, quoi. Alors, je vais allumer cette dernière bougie. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça aussi, c'est le Christ, hein. Combien de fois il était là, impuissant et tout, quand c'est là où il essayait justement de convaincre quand même, alors que il faisait appel à son père pour lui dire aide-moi, quoi. Hein, quand je suis dans des situations comme ça, c'est aussi ma vie, hein, comme on l'a dit, on a vécu des drames et on est sur terre en vivant des drames, inévitablement.
Le Christ dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Exactement.
Est-ce qu'à un moment donné, dans votre vie, vous vous êtes dit ça? Vous vous êtes dit, Seigneur, tu me laisses tomber, c'est la galère?
Non,
pour moi,
le Seigneur, je prie le Seigneur pour protéger les miens, pour protéger ma famille, ceux que j'aime, et tout le monde, bien sûr, mais en priorité, ceux qui ont vécu avec moi, mes enfants, mes petites filles, hein, bon, mon épouse que j'ai perdue, bien sûr, je prie pour elle. Avec ma compagne, maintenant, on est bien lucide aussi que ma vie est différente. Mais elle me suit dans cette vie que j'ai aussi, qui est consacrée à une passion, mais sans négliger cette vie de penser aux autres et de continuer à pratiquer.
Mais un exemple concret, lors du Tour de Corse 1986, vous gagnez la course le jour où Henri Toivonen et Sergio Cresto meurent dans un accident. Est-ce que ce souvenir vous hante encore aujourd'hui, ou bien est-ce que la foi vous a aidé à surmonter cette épreuve?
Inévitablement, là j'ai prié pour eux, bien sûr, mais j'ai pas prié pour moi pour pas que ça m'arrive, mais j'ai fait souffrir les miens, parce que nous, on a fait un choix de vie qui est un combat permanent, bon, pour réussir dans ce métier, pour le pratiquer, et puis que les risques que ça comporte. J'ai perdu tellement d'amis, parce qu'il faut savoir que, donc ça c'est arrivé en 86, donc Henri Toivonen et Sergio Cresto donc se tuent devant moi. Ils brûlent dans leur voiture. C'est le cauchemar d'une vie que moi j'ai acceptée. Bien sûr, mes premières pensées vont tout de suite à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Et bien sûr, on fait un rapprochement avec les siens. Hein, on se dit qu'on les fait souffrir sûrement. Alors donc, c'est des situations où effectivement, on remet tout en question. Et l'année avant, donc en 85, c'est Attilio Bettega, toujours de l'écurie Lancia aussi, qui se tue devant moi aussi cette année-là. Là, son coéquipier s'en sort, donc on le voit sur le bord de la route. On se dit qu'effectivement, c'est peut-être moins grave que bon l'année suivante où j'ai eu malheureusement ce constat, quoi, impuissant, qu'on n'a rien pu faire. Et malheureusement, quand on a appris qu'il était mort, moi j'avais là ces jours-là pendant la course mon épouse qui me suivait. Et je pense maintenant, surtout après avec du recul, la souffrance qu'elle a dû vivre, parce qu'inévitablement elle a dû penser à nos enfants qui subissaient ça aussi. Quand on perd des copains comme ça qui sont pères de famille, font souffrir donc tout son entourage, c'est terrible. Et une anecdote aussi, quand j'ai appelé mon épouse ma dernière année professionnelle, donc j'allais avoir 60 ans, j'ai pris la décision d'arrêter, je l'appelle pour lui dire que ça y est, j'ai pris enfin la décision d'arrêter. Je crois que maintenant c'est raisonnable, j'ai gagné tout ce que je voulais, on a eu la réussite, je m'en suis bien sorti, donc j'arrête cette carrière professionnelle. Elle était inconsolable au téléphone, mon épouse. Mon épouse Renée était inconsolable, je m'étais jamais rendu compte à quel point elle souffrait des risques que je prenais, quoi. Pas seulement pour elle, mais pour les enfants et puis tous ceux qui m'aimaient, mes parents, mes frères et sœurs et nos amis sincères, quoi. Tous ces gens-là qui gravitent autour de vous. Et c'est une vie d'égoïste. C'est une vie d'égoïste, la course automobile. Comme souvent tous les sports. Mais là, celui-là, il est tellement dangereux qu'on fait souffrir son entourage.
Est-ce que vous croyez aux anges gardiens, Bruno Sabi?
Je crois aux anges gardiens, mais je ne dis pas que j'y ai échappé parce que j'étais plus pratiquant ou plus croyant que les autres. Moi, pour moi, j'étais dans le même bain qu'eux et ils n'ont pas eu la chance de s'en sortir. Mais là, je ne dis pas c'est parce que je vais à la messe, c'est parce que je pratique. Non, je prie pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont disparu et pour tous ceux qui, effectivement, sont dans la douleur, dans la misère. Mais je ne prie jamais pour moi, pour me sauvegarder de ça, quoi. Mais ma foi fait que c'est ma nature de penser comme ça.
Est-ce que vous avez un saint ou une figure, Bruno Sabi, qui vous inspire particulièrement et qui vous aide?
Bon, ben, Saint Bruno, c'est le patron de la Chartreuse. Donc, quelque part, on sait que c'est lui qui a créé le couvent donc de la Chartreuse, qui est un endroit... Pour moi, qui représente beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, c'est une des plus belles spéciales de tous les temps du Rallye Monte Carlo, la Chartreuse entre Chambéry et Grenoble, que j'ai pratiqué dans tous les sens. Mon curé de mon village de Gières, il est devenu prêtre à Saint-Pierre de Chartreuse. Bon, il y a toute une histoire autour de ça. Et voilà quoi. Bon, ben maintenant j'ai beaucoup aussi Gabriel, bien sûr, est un exemple aussi par tous ses conseils. Et puis Saint Augustin, c'était le père qu'on pratiquait beaucoup avec mes parents. Mon père s'appelait Augustin aussi, et donc la vie de Saint Augustin me fascinait aussi. Mais pour moi, le personnage qui m'a le plus ému et qui m'a aussi ébloui, c'est Charles de Foucauld. Cet homme qui a vécu en faisant la fête, en devenant quelqu'un qui jamais n'aurait imaginé qui se reconvertisse comme ça dans la foi, qui a fini sa vie pour Dieu, qui a quitté une vie confortable pour aller à Tamanrasset, au fin fond de l'Algérie, pour aller prêcher, pour aller... Quelle audace de faire ça, d'ailleurs il en est mort. Hein. Et moi, ce qui m'a plu dans ma carrière, c'est que j'ai eu la chance... La seule fois où je suis allé à Tamanrasset, c'est pendant le Paris-Dakar, et ce Paris-Dakar que je gagne. Donc je suis passé à Tamanrasset, et on avait eu la chance de faire étape à El Goléa, qui avait été l'étape la plus difficile. C'était Beni Ounif, El Goléa, donc on partait du Maroc pour aller à El Goléa. On faisait étape à El Goléa avec l'étape la plus dure de tous les temps, je crois, d'un Dakar. C'était 800 km non-stop, et on a fini deux nuits... Et c'est là qu'on a gagné l'étape, et c'est un peu là qu'on avait fait la différence, et je pense qu'on a gagné ce Paris-Dakar. Et j'ai eu le temps quand même, pendant la journée du lendemain qui avait été annulée, parce qu'il fallait récupérer la plupart des concurrents, on était très peu nombreux à avoir fini cette étape, et j'avais été sur la tombe de Charles de Foucauld, parce que les restes de son corps sont enterrés à El Goléa. Donc j'ai eu la chance de passer à Tamanrasset, où il a vécu, où il a prêché, où il a mené une vie dure. Je me souviens, j'ai lu son livre, bien sûr, et quand il raconte qu'il partait d'Alger, quoi, des villes, pour aller à Tamanrasset à pied, et quand il se reposait, il mettait un caillou sous sa tête pour endurcir encore sa vie, son choix de vie, d'être croyant et de remercier Dieu d'avoir eu la foi. Et il continue à souffrir, quoi. Pour moi, c'est exemplaire, quoi. Cette vie-là m'éblouit, me fascine, et beaucoup de respect pour Charles de Foucauld. Et je conseille aussi de lire sa vie, son histoire.
Charles de Foucauld avait une prière incroyable. Je vous propose, Bruno Sabi, dans l'émission Athlète de Dieu, de la lire. Elle est sur cette page.
Vous l'avez en plus. D'accord. Ah ben, ça fait plaisir que vous ayez... Ben, bravo.
J'avais deviné que Charles de Foucauld serait un saint pour vous.
Ben, bravo. Merci. Voilà, mais... Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour et de me donner. de remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Fabuleux.
Elle est magnifique.
C'est fabuleux.
Et elle est exigeante.
Je vois Saint-Augustin au-dessus, là. Le Saint... pape est un Augustin, augustinier.
Oui. Parce que le pape...
a vécu dans le désert.
Oui. En fait, ce sont les pères du désert. Et c'est assez extraordinaire, votre histoire. C'est que vous avez traversé le Paris-Dakar et tous les déserts. Vous êtes aussi les déserts de Russie. De
j'ai affronté tous les déserts, des endroits où je ne serais jamais allé. Grâce au rallye, je dois ça au rallye. Il m'a permis aussi de me rapprocher de Dieu à travers cette vie que j'ai menée. Et puis tous ces gens que j'ai rencontrés, toute cette misère que j'ai rencontrée.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Bruno Samy, dans le désert? Qu'est-ce qui fait que quand on est dans un lieu où il y a du silence, un silence qu'on n'a jamais ailleurs que dans le désert, il faut y aller pour comprendre ce que c'est que le vrai silence, quand on est seul, quand on est dans la nuit, qu'est-ce que ça fait, Bruno Samy? Pourquoi cette, finalement notre âme, ou en tout cas notre intelligence est un peu plus ouverte à la transcendance?
On n'est jamais aussi proche de Dieu que lorsqu'on est seul, et seul dans le désert, mais j'ai vécu des moments d'exception. Ça, ce que m'a apporté justement cette discipline du rallye raid, j'étais pas tenté par cette discipline, parce qu'elle me correspondait pas, je m'imaginais pas un jour me retrouver comme ça, à me battre dans des situations qui étaient pour moi pas le but essentiel de la course, parce que moi, la course était à la seconde, alors que là, dans le rallye raid, c'est un combat permanent contre la navigation, c'est une association avec le coéquipier qui a un rôle très important, c'est une équipe derrière soi, on se retrouve le soir au bivouac avec des gens de toute tendance, mais qui ont la même volonté, c'est d'être ensemble, de se confronter à un objectif qui est de gagner ensemble, quoi, ça rassemble. Et là, ma foi, quand on se retrouve dans une situation comme ça, on sait que Dieu est avec nous et nous permet de pouvoir se battre dans des conditions qu'on n'imaginait pas, quoi. C'est un combat qui nous permet d'être pratiqué grâce à l'existence de Dieu.
Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui sont en recherche ou qui se posent des questions sur la présence ou non de Dieu, sur le sens de leur vie, peut-être aussi sur la façon dont on doit aujourd'hui, pour arriver à des parcours comme le vôtre, se battre?
C'est un combat. Vous l'avez bien résumé, c'est se battre. Alors, je suis beaucoup plus optimiste qu'à une certaine époque. Parce que je me rends compte, là, je m'en suis rendu compte ces derniers temps, avec Pâques, qu'énormément de gens revenaient donc dans les églises, se faisaient baptiser, beaucoup de jeunes. Quand on voit le pape qui se déplace, les rassemblements, hein, cette foi qu'il dégage, cette passion qu'il fait revivre chez ceux qui avaient oublié un peu Dieu, et puis notre pratique à nous, quoi. On est chrétiens, catholiques, avec des bases qui sont des bases essentielles pour vivre sainement, pour donner du courage, pour affronter cette vie difficile, et puis pour partager, et puis pour être charitable. Donc, je crois qu'actuellement, il y a réflexion, et tous ces jeunes qui viennent à nous comme ça, qui viennent se faire baptiser pour devenir ce qu'on était, quoi, en fin de compte, parce que notre nation, elle est à la base quand même croyante, pratiquante, hein, tout ça a été enseigné, hein, nos dirigeants, nos rois à l'époque, bien sûr, hein, étaient croyants. Après, je respecte toutes les religions, parce que je pense qu'elles ont toutes une bonne base, mais bon, je respecte toutes les religions, vraiment, et je trouve que si on la pratique comme nous a été enseigné, quelles que soient les religions, on est obligé d'être des gens honnêtes, bien. Moi, celle que j'ai reçue grâce à mes parents, elle me correspond. Et je souhaite que, et je sais que dans ma famille, ce sera comme ça pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour tous mes proches. Donc, je suis rassuré parce que je dis pas à coup sûr qu'on détient la vraie, la bonne, mais en tout cas, celle qui nous est enseignée et qui nous permet de vivre comme l'on vit, eh bien, elle est saine.
Une foi magnifique, et on peut en profiter par votre intermédiaire pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément cette foi, bien de bénir nos amis juifs, nos amis musulmans,
absolument,
les personnes aussi qui ne croient pas, qui sont en recherche.
Absolument.
Très important, et d'ailleurs dans les paddocks vous en avez croisé de toutes les religions, de tous les pays.
Absolument.
Une richesse incroyable.
Je confirme justement, c'est pour ça qu'il faut être dans la tolérance, dans le pardon, et dans surtout la générosité, et... ce que j'ai vécu, moi, je l'ai constaté de par la chance que j'ai eue de pratiquer une discipline qui m'a permis d'avoir, de faire des rencontres. Mais être charitable, c'est la base de la vie.
Et témoigner dans un paddock, c'est possible ? Comment on témoigne ?
Alors, moi, quand des fois je suis surpris, je fais des réflexions. Alors, bien sûr, ça doit choquer, ça doit pas toujours faire, l'unanimité. Je n'ai pas, je sens que c'est le moment de faire passer le message. Moi, je dis que je prends du temps pour aller à la messe, je prends du temps pour prier. Il y en a qui me regardent bizarre. Il y a des endroits qui me choquent. Maintenant, c'est vrai que de moins en moins, dans les enterrements, on fait le signe de croix, on bénit le cercueil. Bien sûr, il y a cette tolérance pour ceux qui n'ont pas les mêmes pratiques de nous, de se manifester d'une façon différente. Mais ça me choque et j'aimerais qu'on ait encore le respect. Moi, je pense que je pleure moins que les autres dans les enterrements. Je les vois tous pleurer, mais ils n'ont pas la foi. Et je les comprends. Parce que nous, on est plein d'espérance. Moi, quand je vais bénir un cercueil, un défunt, eh bien, je sais qu'on se retrouvera. Et tous ceux qui tournent autour de ce cercueil sans se manifester autrement que par un signe païen, je me dis, ils doivent souffrir, vraiment plus que moi.
La musique, cher Bruno Sabi, il y en a eu sans doute dans votre autoradio, dans la voiture, une musique qui... parce qu'on pose la question à tous ces athlètes de Dieu, alors c'est pas forcément dans la voiture, c'est peut-être dans un vestiaire comme Olivier Giroud qui est isérois, ou en arrivant d'une course pour Jenny Longo. Quelle est la musique, ou le chant religieux, ou en tout cas, ou un chant tout court, hein, qui pourrait vous apaiser après une victoire ou une défaite ?
Je pratique beaucoup quand même aussi, effectivement, la musique. Quand je suis en voiture, c'est mon compagnon. J'adore écouter la musique classique. Je ne suis pas un connaisseur. Il y a plein de choses comme ça. J'adore aussi l'art, sans connaître l'art. J'adore les bons vins, sans connaître les vins. Et c'est pareil pour la musique. Et donc, je suis dans un autre trip de musique. C'est Yann Tiersen, ouais. Les rues des Cascades.
Magnifique choix. Yann Tiersen, j'adore. Très très belle, très très beau compositeur et des belles musiques qui nous élèvent dans cette émission qui va malheureusement bientôt se terminer dans ce garage avec toutes ces voitures. En fait, on pourrait parler pendant 3, 4, 5, 6 heures avec Bruno Sabi. Ce sera l'occasion peut-être de revenir dans une autre émission d'Europe 1. Avec pourquoi pas plaisir. Le studio des légendes de Jacques Vendroux. Ce serait
exactement,
magnifique. On pourrait parler un peu plus de sport, de manière évidemment très décontractée. Je voudrais vous poser deux dernières questions. D'abord, la longévité, on en a parlé. Vous êtes un peu comme Jenny Longo, hein, vous continuez. Est-ce que c'est quoi, typiquement isérois, c'est le fait d'être avec l'air de la montagne ? Est-ce que c'est la foi ? C'est quoi ? C'est un peu tout ça ?
On n'a pas eu l'occasion de bien se pratiquer avec Jenny, mais on s'est toujours bien respecté. On a eu l'occasion de vivre aussi pour notre région. On s'est souvent manifesté auprès de notre ville. On a souvent été présent pour des réceptions avec les jeunes, hein, pour être un exemple pour eux, pour un choix de vie. Mais Jenny me fascine. Et puis on a passé un deal tous les deux, c'est que tant qu'il y en a qui continue, l'autre suivra, quoi. Alors bon, là, elle voulait plus faire de compétition, mais comme j'ai refait le Dakar cette année, je me sens obligé. Ma pauvre Jenny, je suis désolé. Mais bon, écoute, on a cette chance de pouvoir... Moi, pour moi, prendre une 60e licence, bon, j'ai gagné des grandes épreuves, j'ai gagné des petites épreuves aussi, mais j'ai gagné sur 7 décennies, quoi. J'ai commencé dans les années fin 60, je gagnais d'entrée dans les années 69, j'ai gagné mes premiers rallyes, et je continue maintenant à travers les rallyes historiques que je pratique avec mes voitures qui ont marqué ma carrière. Je gagne encore, donc c'est assez unique. C'est vrai que cette année, quand je me suis présenté sur le Dakar, dans ma 77e année, même beaucoup de mes camarades qui m'aiment bien m'avaient demandé de faire ça gentiment ou même de pas le faire du tout, parce que ce serait dommage de prendre des risques dans une discipline très dangereuse. Mais je me sentais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que je partais sans intention de gagner. Donc je l'ai fait d'une façon raisonnable avec un garçon charmant qui est un coéquipier célèbre, parce que Benjamin Boulou, c'est le coéquipier de Johan Bonato, qui ont été 6 fois champions de France des rallyes et qui a tenté l'aventure avec moi. J'ai vécu un moment d'exception avec ce coéquipier. On a vécu des moments difficiles, mais toujours avec le sourire, parce que j'ai cette force en moi de faire des choix de vie qui sont pas toujours évidents. Mais quand on fait un choix, il faut les accepter. Donc je savais que c'était un privilège que de participer encore à cette épreuve en Arabie Saoudite. Je sais pas si on pourrait y retourner quand on voit les événements actuels. Donc ça a été pour moi un moment d'exception et content de l'avoir revécu.
Bruno Sabi, dernière question dans cette émission. Les athlètes de Dieu.
Les athlètes de Dieu. Alors, je suis très, très satisfait. Et puis, surtout, comment dirais-je...
La question, elle est là. Hein.
La question, elle est là, oui. Parce que, d'abord, avant de regarder la question,
oui, Bruno,
je suis flatté d'avoir, de passer après des garçons aussi prestigieux.
Alain Giresse, Olivier Giroud, Tanguy de la Forêt, champion paralympique de tir, Thomas Barr, président, ancien président du CIO, président d'honneur du CIO, et tant d'autres.
Pour moi, c'est une aide aussi de Dieu d'avoir été choisi pour parler de mon sport, qui est un peu un sport différent, qui n'est pas toujours considéré comme un sport d'athlète. Mais croyez-moi que pour affronter des difficultés comme le Dakar ou d'autres épreuves de sport automobile, il faut être en forme, parce qu'à 77 ans, c'est pas tout le monde qui peut. C'est Dieu qui m'a aidé. Et qui est l'athlète de Dieu à qui vous souhaiteriez passer le micro? Eh bien, j'aimerais que ce soit des garçons qui sont d'actualité dans le sport automobile. À une époque, on avait Senna. Senna était un garçon qui avait Dieu avec lui.
Oui, le Brésilien.
Le message y passait. Ayrton Senna a été le plus célèbre de tous les pilotes qui croyaient en Dieu. Et moi, j'aimerais...
Bon, triple champion du monde de Formule 1.
Je sais qu'Alain Prost est très proche de ça aussi. Je sais que certains pilotes de rallye aussi. Mais je ne veux pas citer de nom, mais j'aimerais qu'un pilote d'actualité en rallye, puisque c'est quand même ma passion première avant toutes les autres disciplines du sport automobile, soit un jour votre invité, parce que votre émission est unique. Vous avez le courage aussi, parce que ça peut être critiqué. C'est toujours quand on annonce que l'on a une certaine pratique, une certaine religion, on fait pas que des amis. On peut être critiqué, donc vous prenez ce risque et je vous bénis aussi d'avoir cette initiative et de poursuivre en tout cas cette émission que je souhaite réunir le maximum de sportifs.
Vous venez d'écouter un épisode d'Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, avec le soutien d'Holly Games.